VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bienvenue. L'ex-maire de Fotokol, ville de l'extrême nord du Cameroun, Moussa Ramat, interpellé en septembre 2014 pour complicité avec le groupe djihadiste nigérien Boko Haram et acquitté le 28 décembre, a été libéré jeudi soir. Acquitté le 28 décembre, il devait être libéré après 3 ans de détention, mais son avocat avait dénoncé mardi à l'AFP le maintien en détention de son client plusieurs jours après son acquittement. L'ancien maire de Fotokol était accusé d'avoir fourni des armes à Boko Haram et aidé à la commercialisation du produit des pillages des combattants du groupe djihadiste qui attaque fréquemment des localités du nord du Cameroun. Au Niger, le gouvernement a décidé de procéder à un recensement biométrique de plus de 250 000 personnes qui ont fui les atrocités de Boko Haram et vivant depuis 3 ans dans la région de Diffa. Cette démarche vise à maîtriser leur nombre pour faciliter une intervention plus efficace des structures humanitaires en leur faveur. L'opération a démarré et se poursuit comme a pu le constater notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa, qui était récemment à Diffa.
Sur le site de Assaga, un des 3 centres hors camp sur lesquels se déroule l'opération depuis novembre 2017, l'affluence est grande. Avec ses 3 enfants, Malam Chefou, originaire d'un village du Nigeria, a pu se faire un chemin pour pouvoir accéder au premier stand où son statut de réfugié, de retourné ou de déplacé est déterminé à la suite d'un long interrogatoire. Il passe ensuite au stand protection tenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Nafissa Moussa, du bureau HCR d'IFA.
Ce qu'on fait à notre niveau, c'est la protection. Donc, des personnes à besoins spécifiques. Prioriser les gens qui sont des handicapés, les vieillards, les femmes seules.
Madame Chefou passera ensuite dans 8 autres stands avant d'être en possession de ces documents importants pour ses chefs de famille.
Avec la carte, je peux voyager d'un état à l'autre sans problème. Nous sommes vraiment contents. Que Dieu récompense les initiateurs.
Cette opération de recensement est supervisée par la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié, Amma Suleiman El-Hajj, et administrateur adjoint au niveau de cette commission.
Quand le réfugié vient ici, il ne va sortir qu'avec ses documents complets, son attestation, sa carte d'identité des réfugiés, tout. L'objectif, c'est d'abord maîtriser les chiffres. Parce que depuis un certain temps, il y avait beaucoup de difficultés relatives aux chiffres. Donc après cette opération, ce problème ne va plus se poser.
Au-delà de la maîtrise du nombre de personnes en mouvement due à la situation sécuritaire, l'opération vise également un meilleur suivi de l'aide à apporter à ces populations vulnérables, selon le directeur régional de l'état civil des migrations et des réfugiés de Diffa, Oumarou Boubacar.
Avec le recensement biométrique, nous connaissons qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et où êtes-vous. Ce qui va nous permettre de bien maîtriser ces populations-là et même pour y compris pour la science, parce que même ceux qui se déplacent d'un site à un autre, on peut les référer à travers ce recensement biométrique. Donc il n'y aura plus de fraudes qui sont habituées à ça.
Aide et assistance, c'est justement ce qu'attendent la plupart des chefs de ménage venus pour se faire enregistrer à l'occasion de cette opération.
J'ai reçu ma carte, c'est bien, mais je veux plus parce que nous souffrons ici. On a besoin de nourriture et de faire des petites activités génératrices de revenus.
Selon la direction régionale de l'état civil de Diffa, à la mi-décembre 2017, plus de 37 000 personnes ont été recensées à la biométrie. Abdelrazak Idrissa, de retour de Diffa pour VOA Afrique.
Une 60aine de commerçants tchadiens ont été interpellés ces derniers jours en Guinée équatoriale après l'annonce par le gouvernement d'un coup d'État déjoué. Abdourahmane Dia.
55 commerçants étaient détenus hier à Malabo, 9 à Mongomo et d'autres à Ebeyin. L'information a été donnée par l'ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale, Paul Nari Ngarianan. Selon une source au ministère des Affaires étrangères tchadien, certains ont été libérés après une audience du ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Zen Sherif, avec le président Teodoro Obiang Nguema, hier soir à Malabo. Le chef de la diplomatie tchadienne a déclaré que cette tentative de coup d'État est une menace sérieuse de déstabilisation qui concerne toute la sous-région d'Afrique centrale. Quelques heures plus tôt, la Guinée équatoriale avait accusé un groupe de mercenaires étrangers, en majorité des Tchadiens, mais aussi des Soudanais et des Centrafricains, à la solde de partis de l'opposition radicale, d'avoir voulu attaquer le chef de l'État le 24 décembre dernier. Ils ont été arrêtés le 27 décembre au Cameroun, selon des sources camerounaises. Selon l'AFP, un Tchadien, Mamad Kodobani, présenté comme le cerveau de l'opération, a été arrêté à Douala, au Cameroun, fin décembre.
Au Soudan du Sud, des affrontements entre l'armée gouvernementale et les forces rebelles ont fait plusieurs morts dans l'état de Yei River, les dernières violations en date de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 2 semaines. Lionel Gaïma.
En début de semaine, les membres de la Troïka, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, avaient adressé une sévère mise en garde aux chefs militaires de partis en conflit, les sommant de respecter l'accord de cessation des hostilités signé le 21 décembre à Addis Abeba par le gouvernement sud-soudanais et les groupes rebelles. Les affrontements de l'état de Yei River mettent aux prises les troupes gouvernementales et les rebelles, loyaux à l'ancien premier vice-président Riek Machar. Selon le porte-parole militaire sud-soudanais, le général Lurai, les combattants de Machar ont attaqué des positions de l'armée dans les villes de Morobo, Bazi et Yondu. 5 ont été tués, a-t-il précisé. Les rebelles, par la voix de leur porte-parole, le colonel Lam Gabriel, soutiennent avoir répondu à une offensive des soldats gouvernementaux à Yondu. 7 rebelles et soldats gouvernementaux ont péri dans ces combats, a indiqué le colonel Lam Gabriel. Les deux camps assurent malgré tout qu'ils ont décidé d'honorer le cessez-le-feu et que tous les chefs militaires ont eu pour instruction d'arrêter les combats et de permettre la libre circulation des civils et de l'aide humanitaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 6h07. Un touriste sud-africain a péri et 12 personnes ont été blessées dans la chute vendredi d'une montgolfière près de Luxor, le deuxième accident du genre dans cette ville du sud de l'Égypte en près de 5 ans, a indiqué un responsable. La cause de la chute de l'appareil qui transportait environ 20 personnes, dont des touristes, n'était pas connue dans l'immédiat. L'accident de vendredi est survenu au moment où le gouvernement égyptien tente d'attirer les touristes après des années d'instabilité politique et sécuritaire. Le tourisme est un secteur clé de l'économie de l'Égypte. Séoul et Pyongyang se sont mis d'accord vendredi pour tenir mardi prochain leur première discussion en 2 ans dans un nouveau signe de détente entre les deux voisins à un mois des Jeux Olympiques en Corée du Sud. Cette annonce est intervenue quelques heures après que Washington et Séoul ont convenu de reporter des manœuvres militaires après les Jeux Olympiques, des exercices qui, chaque année, contribuent à aggraver la situation sur la péninsule. La rencontre entre le Nord et le Sud, la première du genre depuis décembre 2015, aura lieu à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion sur la situation en Iran à la demande des États-Unis, indiqué hier la présidence du Conseil assurée par le Kazakhstan. La réunion prévue à 20h GMT, 15h de New York, vendredi, est d'ores et déjà critiquée par la Russie qui estime que les manifestations en Iran ne relèvent pas du Conseil de sécurité et n'excluent pas de demander un vote de procédure pour bloquer les débats. Le président américain Donald Trump a dénoncé le contenu plein de mensonges d'un livre sur sa campagne électorale et le chaos à la Maison-Blanche, mis en vente à partir de ce vendredi dans un tweet publié jeudi soir. Initialement prévu mardi prochain, la sortie du livre a été avancée aujourd'hui malgré les tentatives de Donald Trump d'empêcher la sortie. Michael Wolff, l'auteur de ce brûlot, âgé de 64 ans, avait expliqué avoir gravité pendant 18 mois autour de la galaxie Trump de la campagne présidentielle à la Maison-Blanche et interrogé plus de 200 personnes du président à ses proches collaborateurs. Et puis le nord-est des États-Unis était paralysé par la neige et le blizzard. Des milliers de vols ont été annulés, notamment à New York, dont les deux principaux aéroports ont dû temporairement fermer leurs pistes, tandis que la garde nationale a été appelée en renfort pour venir en aide aux naufragés de la route. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes, il vous sera présenté par Harry Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.